Pour notre méditation de ce dimanche, se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 16 à 23. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 23. Au nom de Jésus. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. J'espère que vous avez compris. Hein, Paul, il a la manie de faire des phrases compliquées, mais ça c'est Paul. Cela fait déjà depuis une décennie, voire plus même, le manque criant de pasteurs dans nos églises protestantes dans toute l'Europe. Et ça s'accentue d'année en année. Tout le monde a sa propre théorie, les pubs en a fait même des synodes, des groupes de travail, des discussions dans les districts, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des pistes. Et celles qui reviennent fréquemment, c'est la crise de la vocation. Que ce soit chez les protestants et aussi, je crois, chez nos amis catholiques. Y aurait-il un principe de cycle de vie, c'est ma question que je me pose, dans la vie de l'Église? Comme si l'Église suit un cycle, un moment où l'Église est florissante, un moment où elle est moins bien, et ça reprend ainsi de suite. Est-ce qu'il faut accepter qu'on est dans la vague creuse, jusqu'à ce qu'on remonte, je ne sais pas quand? Faut-il faire quelque chose ou faut-il subir? Voilà les questions qui reviennent dans la tête de tous les responsables d'église. Et même le peu qui reste, quelle serait aussi leur motivation dans ce ministère? Le peu qui reste, que ce soit les pasteurs, mais aussi les prédicateurs, les évangélistes, les responsables de différentes activités dans l'église, responsables de jeunes, responsables de la diaconie, responsables de différentes activités dans une paroisse. Les responsables des différents services, cela touche tout le monde, pas seulement les pasteurs, non seulement les ministres de culte, mais tous les membres du corps du Christ. Voilà la problématique. Personnellement, je n'ai pas la réponse. J'ai pas de réponse précise ni absolue. Mais on peut voir quelques pistes de réflexion à partir de notre texte de ce matin. Regardez dès au verset 16, Paul annonce la couleur. Il dit que c'est une nécessité imposée, le fait de prêcher l'Évangile. Regardez bien la combinaison de ces deux mots, nécessité imposée. Et il intensifie son propos en rajoutant ceci, « Quel malheur pour moi si je n'annonçais pas la bonne nouvelle !» Ou « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle !» Et en entendant ces paroles de Paul, certains pourraient dire que Paul ici, il tombe dans une sorte d'excès de zèle. Il en fait trop. En tout cas, en connaissant Paul, il faut connaître d'abord le personnage. Hein. C'est une personne qui est en entier Paul. Paul ne fait jamais les choses à moitié. Depuis qu'il est Paul, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Avant de devenir Paul, le grand évangéliste, le grand prédicateur, lorsqu'il a été encore persécuteur des églises, des croyants, il s'est donné corps et âme à cela aussi. Regardez bien. En demandant par exemple une autorisation spéciale de la part des rabbis, des pharisiens, pour traquer les chrétiens dans toute la Judée. Et il conduisit même la troupe. Non seulement il donnait l'ordre, mais c'était lui-même qui était à cheval pour traquer. Donc il ne ménageait pas ses efforts. Quand il était convaincu d'une chose, il y mettait le paquet. Il voulait même garder, préserver la foi juive à l'époque qu'il croyait comme étant, on va dire, la seule et véritable religion. Et donc, tellement il était en entier, Paul, il était dedans, il a fallu un choc, un électrochoc qui vient du ciel. Je dirais même, il a fallu une violence pour le secouer et le faire tomber de son cheval. Quand on l'a secoué, et là, il a complètement changé de paradigme, on va dire. Sa chute sur le chemin de Damas était, et là je reprends l'expression au tout début, était nécessaire. Il a fallu que Paul soit tombé de son cheval pour comprendre certaines choses. Et ce terme est repris dans notre texte ici. C'est ce que Paul sous-entendait. C'est une chose qui m'est imposée, quelque chose qui lui est tombé dessus. Il ne l'a pas choisi, il ne l'a pas voulu. C'est comme un, on va dire, un truc énorme, plus fort que lui, qui est lui tombé dessus et il était à terre. Le grand Martin Luther aussi avait écrit un article qui disait « Luther est vaincu ». Quand il a commencé la réforme, vaincu par la vérité de la parole, et il était enchaîné par la parole. Voilà. Et c'est cette parole-là qui m'oblige y aller, disait-il, même si on va me juger à Rome. Voilà quand quelqu'un est tombé de son cheval, on va dire. Quand cet appel lui tombe dessus, il ne peut pas faire marche arrière. Ça ne te laisse pas dormir. Ça ne te laisse pas tranquille dans ton coin. Et c'est ce qui s'est arrivé à Paul. Pourquoi parlerait-il de nécessité qui s'impose à lui? Alors, comme je viens de le dire ci-dessus, Paul a été terrassé de son cheval et à la suite de sa chute, cette mise à terre est plus que symbolique pour lui. Le grand Saül, bras droit de Gamaliel, est à terre. Et en se relevant de là, une fois que l'écaille a été enlevée de ses yeux, rappelez-vous, Ananias lui a imposé les mains et il y avait une écaille qui a été enlevée de ses yeux, qui lui a permis de revoir à nouveau. Et une fois qu'il a retrouvé la vue, il a complètement changé et il est devenu Paul. Saül devient Paul. Et ce Saül devient défenseur farouche de la religion du christianisme. Celui qui est défenseur du judaïsme, est devenu apôtre des païens. Regardez bien, c'est le pôle nord et le pôle sud. Un pharisien, c'est un nationaliste protecteur que pour les juifs. Et quand il a été, on va dire, ordonné apôtre, il est devenu apôtre de quel type de personne ? Des païens. C'est ça, une conversion. Une conversion, c'est pas force. Obligatoirement, voilà, j'étais un croyant et après, j'ai pu croire en Dieu. Mais aussi, il change complètement de vision. Il était que pour les juifs et maintenant, il est le défenseur des païens. Et à partir de là, que nous pourrons comprendre le sens des versets 19 à 23 de notre texte de ce matin. Pour nous aujourd'hui, lire ces versets nous semble si facile en 2021. Mais est-ce que vous mesurez l'intensité de ces phrases pour Paul qui l'écrit ? Lui qui a été pharisien et même dans la branche la plus radicale, il faisait partie des extrémistes. Et ce qu'il dit dans ces versets, je qualifierais cela comme une grande, gymnastique spirituelle. Il dit quand il est avec les Juifs, et il connaît pertinemment et en détail toutes les exigences culturelles et culturelles en lien avec son statut de Juif, il dit « je serai comme eux ». Et quand il est avec les sans-loi, c'est-à-dire les hellénistes, les grecs, les romains ou autres, Paul se montrait aussi comme étant un des leurs. Au niveau du savoir-vivre, je dirais bien au niveau du savoir-vivre, au niveau de la connaissance, car Paul, rappelez-vous, avait la citoyenneté romaine aussi, il avait une double citoyenneté, et avait une grande connaissance en philosophie grecque. Donc c'est quelqu'un homme de foi, mais aussi c'est un intellectuel. Regardez bien ces deux piliers. De ce fait, Paul pouvait engager les discussions, que ce soit avec un rabbi, il était capable de parler de la loi, de la Torah. Et quand il était avec les intellectuels, les philosophes, il avait des discussions d'une envolée extraordinaire intellectuelle, de même sphère que les hellénistes, et qui a étonné d'ailleurs les gens. Et c'est un peu ça qui a rendu la jalousie des juifs envers Paul. C'était un homme à tout faire, ce Paul. Il était capable de tout. S'il parlait de la philosophie, il avait des choses à dire. On parlait de la religion, il savait quoi faire. Et voilà. Et je tiens à souligner qu'il ne faut pas comprendre ces phrases de Paul comme quoi nous sommes des personnes qui vivrait dans le compromis, qu'on dit que je suis avec les juifs, je suis un juif, quand je suis avec les païens, ça ne veut pas dire que voilà, avec les païens, tu fais aussi ce que les païens font. C'est pas ça ce qu'il veut dire. C'est de dire que il était capable de discuter avec tout le monde, quel que soit son interlocuteur. C'est pas un compromis. C'est pas du tout cela. Et c'est ça que j'ai dit, nous ne sommes pas des caméléons. Quand tu es avec les païens, alors là, on ne sait pas que tu es chrétien, tu fais aussi ce qu'ils font. C'est pas ça ce que Paul disait. Mais plutôt une sorte de pâte à modeler, il était flexible à tout, il trouvait toujours sa place. Et d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant pour les chrétiens. Pourquoi nous, les chrétiens, engagés dans leur foi, quand on est avec les païens, nous ne sommes pas à l'aise ? Paul, lui, il était à l'aise. Il n'avait pas de complexe. Et nous devons suivre ce modèle-là. Ne soyons pas comme les Amish, entre guillemets comme les extrémistes qui ne veulent rien savoir, qui ne se communiquent pas avec les gens, qui ne parlent pas avec son voisin, son collègue, nos amis à l'école ou à l'université ou dans les boulots. Soyez des bons, soyez meilleurs dans tous les domaines. Et c'est là que vous attirez les gens à Dieu. Quand ils vous verront que vous êtes aussi capable de parler de la politique, vous êtes aussi capable de parler de tous les domaines de la vie, les gens vont commencer à se poser des questions. Mais qui est-il, ce gars ? C'était ça qui attirait l'attention des gens sur Paul. Et en scrutant le parcours de Paul, je vois en cet homme, moi personnellement, un prototype parfait d'un prédicateur que nos églises ont vraiment besoin en 2021. Il faudrait des Paul aujourd'hui. Il est quelqu'un qui ne tombe de nulle part. C'est quelqu'un qui a une racine assez profonde. Ça dit que c'est un rabbin. Donc quelqu'un qui a appris la loi, tenez-vous bien, par cœur. Donc c'est quelqu'un qui est profond. C'est pas quelqu'un de superficiel. Il connaît la loi. Mais aussi, c'est un intellectuel ayant des bagages de connaissances générales assez élevés. Paul était très cultivé. Il a une aisance de communiquer avec les différentes nationalités, vu sa maîtrise d'autres langues. Paul savait parler très bien le romain. Cela lui a permis de faire tous ses déplacements et regardez, il est le seul apôtre qui a pu faire des voyages missionnaires dans le monde. Parce que c'est un gars polyvalent, polyglotte, avec des connaissances extraordinaires. Et non seulement, il avait aussi le tact. C'est un gars qui avait un tact. Quand on parle d'aisance ici, la prise de parole, à l'exemple, rappelez-vous de ces plaidoiries dans les tribunaux. Si vous voulez suivre une belle plaidoirie de Paul, lisez les Actes des Apôtres quand il a été accusé et face au roi, face à l'empereur. Regardez bien la prise de parole de Paul. Il ne commence jamais par un verset, il ne commence jamais par Jésus, il commence à parler avec ce qu'il avait autour de lui. Permettez-moi votre honneur que ceci et cela, on m'a dit que, on m'a inculpé que. C'est comme si on entendait un avocat. Et il jouait avec. Et c'est à la fin qu'il introduisait son message, l'évangile. Et c'est de cette manière que des personnes haut placées dans le palais se sont converties au christianisme. Intéressant comme image qui pourrait nous aider aujourd'hui. Il fait aussi allusion de son rapport à l'argent dans ce texte. Même s'il ne le dit pas de façon explicite, il le dit quand même au verset 17 et 18. Lisons ce qu'il dit. « Si je le faisais de mon propre gré, j'aurais un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire ? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. » À travers ces versets, on peut en déduire que Paul ne recevait pas de salaire quand il a fait son ministère. Non pas par manque de financement dans les églises. D'ailleurs, il s'adresse à Corinthiens, et Corinthiens, c'est l'église la plus riche parmi toutes les églises que Paul avait créées, on va dire. Mais il a refusé. Corinthe lui a voulu donner des subsides, il a refusé. Par contre, il a accepté l'aide que la Macédoine lui a donnée. Or, c'est une église la plus pauvre. Ça, c'est Paul. Il refuse l'aide d'une église très riche, mais il accepte l'aide d'une église pauvre. C'est vraiment un choix tactique que Paul a fait. Il a disait même, il voulait être libre dans ses propos. C'est pas parce que vous allez me donner de l'argent que je dois être limité dans ce que je vais dire. Non, je vais être libre dans ma parole. Bref, en Paul, nous pouvons avoir un profil type de ce que serait un prédicateur idéal. Car par-dessus tout, à part ses acquis, c'est un homme qui a été profondément bouleversé et met en avant la croix de Jésus, qui est une folie et scandale pour ceux qui ne croient pas, disait-il. Alors, si j'essaie de dresser et faire un schéma type de Paul, voilà ce qu'il est. Il est à la fois très spirituel, très mystique. Rappelez-vous, dans l'Épître aux Corinthiens, il avait raconté quand il a été élevé, il avait fait un voyage dans l'au-delà. Ça, c'est Paul aussi. Il était très spirituel. Mais aussi, il était très intellectuel. Et en bonus, il était très religieux. Il n'a jamais nié qu'il est attaché à tout ce qui est religieux. Voilà Paul. Finalement, ça ne devrait pas exister quelqu'un qui choisisse qu'un seul courant. Aujourd'hui, quand on essaie de voir, tu es de quel courant ? Plutôt tel courant au niveau ecclésiastique? Non. Notre texte montre clairement que nous pourrions être à la fois traditionnels, mais aussi spirituels, et à la fois charismatiques, et aussi intellectuels, et enfin indépendants. Je vous avoue, quand j'ai lu ce texte, j'ai failli dire « Ouf, où j'en suis par rapport à lui ?» Parce qu'il y a encore des cases à remplir, hein. Il a mis la barre très haut, Paul. Et en préparant cette méditation, je me pose à moi-même la question, puisque, comme disait notre prof d'herméneutique, à chaque fois que vous préparez une prédication, vous faites une prédication pour vous d'abord, mais pas pour la communauté. Alors je me suis posé à moi-même la question, est-ce trop idéaliste comme profil ? Je dirais non. Puisque Paul a pu expérimenter cela, mais on va dire, c'est un modèle de ministère à recommander pour l'Église aujourd'hui. Mais à part le ministère pastoral, comment portons-nous dans la société où nous évoluons ? Sommes-nous des croyants caméléons ou des croyants du genre pâte à modeler comme Paul ? Il était vraiment comme une pâte à modeler. Et ce dernier, quel que soit le récipient ou l'endroit où elle évolue, elle arrivera toujours à trouver sa place. Paul, quand il était en prison, il arrive encore à prêcher l'Évangile. Il était sur la place publique, il arrivait toujours à parler. Quand il était dans une maison, dans une famille, il est aussi une autre personne. Il était à l'aise partout, partout. Et je prends cette image avec l'image que nous avons choisie sur Facebook, comme de la boue, l'argile. On peut tout faire avec, la frapper, modeler, presser avec les mains. Et une fois que le potier trouvera la forme pour elle, il prendra forme. Nous aussi, chers amis, il se peut que nous soyons pressés, opprimés, persécutés comme Paul. Pour lui, la prison était même une opportunité. Rappelez-vous le gars quand il a chanté lui et Silas. Tout à coup, le soldat romain disait « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il allait se suicider. Et Paul a dit « Ne fais pas ça, on est là. » Et c'était grâce à cela que ce soldat romain a pu accueillir l'Évangile chez lui. Heureusement que Paul était en prison, sinon lui, il n'aurait pas connaître le Christ. Vous voyez, pour Paul, chaque situation est une opportunité. Une nouvelle porte qui s'ouvre à lui. Car dans ce milieu carcéral, il a pu rencontrer le soldat et il a fait baptiser lui et les siens. En résumé, je terminerai avec une parole de Paul encore. Et rappelez-vous de ces paroles dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » C'est beau, non ? « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Beaucoup ont mal compris cette dernière phrase. Je peux tout ici, c'est pas faire tous les miracles, c'est pas du tout le miracle. Il dit, je peux tout, je peux m'adapter à toute situation parce que j'ai le Tout-Puissant avec moi. S'il me dit, ça te fait du bien de ne pas manger aujourd'hui, mon fils, alors il accepte. Paul a vécu cela. Hein. Paul n'était pas tout le temps rassasié. Paul, son navire est chaviré. Il a eu des problèmes, on l'a tapé dessus, on l'a mis en prison, on l'a traîné dans la boue, on l'a amené dans les tribunaux. Mais à chaque fois, Paul disait, c'est une occasion pour témoigner. Et ce serait le cas aussi pour toi. Dans chaque situation que tu vis, est-ce que tu prends ça comme une sanction ou une opportunité ? Que le Seigneur te bénisse. Amen.